Léo Ferré, l'étranger. Avec le violon d'Ivry Gitlis.
Ah oui, vous savez, j'avais chanté cette chanson avec l'orchestre, j'avais fait l'orchestration, j'avais enregistré avec l'orchestre dans un studio à Paris, et le soir, j'avais enregistré ma voix, surtout le disque, dont cette chanson. Et à 1h du matin, je m'en vais. Et quand je sors, Ivry Gitlis arrive avec son violon, comme ça. Il venait de travailler quelque part, et il me dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, voilà, j'ai chanté, qu'est-ce que t'as fini? T'as fini avec quoi? J'ai dit, avec ça. Il me dit, tu me fais entendre? Alors j'ai fait écouter la chanson, les étrangers. Et il me dit, je peux jouer? Je dis oui. Alors on lui a passé la bande, le playback de l'orchestre, et il a joué une fois. Et puis après, il a écouté, il m'a dit, je peux jouer une deuxième fois? Il a joué une deuxième fois. C'est un des grands violonistes de ce temps, et depuis que Heifetz est mort, il l'a remplacé. Personne ne le dit. Moi, je le dis. Vive! Bravo, Ivry!
Radio Libertaire 89.4.
Mercredi, 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire. Thank you. Si vous vous êtes déjà demandé quel était le véritable prix de la liberté, cette histoire pourrait vous intéresser. C'était une douce nuit d'avril 2016, et je n'allais pas tarder à toucher le fond. J'allais bientôt fêter mes 25 ans, et depuis que je m'étais installé à Paris 3 ans plus tôt, rien de ce que j'entreprenais ne fonctionnait. Mon dernier projet de film s'était effondré pour la 4e fois, et j'étais en train de perdre le peu d'espoir qu'il me restait. Ce soir-là, en rentrant chez moi d'un énième tour du quartier, j'ai fait l'inventaire de mes perspectives. Quand soudain, dans la pénombre de ma rue, un son familier parvint à mes oreilles. C'était un son très spécial. Le restaurant italien qui était au bout de la rue fermait ses portes et l'un des serveurs, qui m'a vu planter là en sortant, m'a dit le nom du mystérieux voisin. J'avais le sentiment d'avoir déjà vu ce nom quelque part, peut-être dans les disques de ma mère. Alors je suis rentré chez moi et j'ai été voir sur Google. Mon voisin était né en 1922 à Haïfa, aujourd'hui en Israël, qui, drôle de coïncidence, était aussi la ville de naissance de ma mère. Il avait donné son premier concert à l'âge de 7 ans, a émigré à Paris pour entrer au conservatoire à 11 ans, puis a joué avec le Philharmonique de Londres, le Philharmonique de New York, ceux de Vienne et de Los Angeles, et à peu près tous les grands orchestres du monde. Il avait joué avec Lennon, les Stones, Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, Stéphane Grappelli, Barbara, Marcel Marceau, et tant d'autres.
Sept plus grands violonistes du monde.
Le grand violoniste du siècle.
Il m'a fait la grande joie de venir
hier aux États-Unis aujourd'hui en France.
Monsieur Ivry Gitlis.
Un drôle de frisson me parcourut. Je n'avais jamais entendu un son pareil. Si insolent et pourtant si parfait. Comme si la foudre le traversait de la tête aux pieds à chaque note. Le lendemain matin, j'ai écrit une lettre que j'ai pliée en un petit avion, déterminé à le faire voler à travers cette fenêtre. Ambitieux ? Sans doute. Mais pas impossible. J'étais bien loin d'imaginer ce que je venais de déclencher.
J'ai eu mon premier violon à l'âge de 6 ans.
Et c'était une affaire d'amour pour moi, vous savez. Je veux dire, je voulais vraiment jouer du violon.
Vous étiez à l'époque en Israël?
Oui. Oui, je suis né là-bas. Je suis né à 25 km de Nazareth, sur le mont Carmel. Je suis un Méditerranéen. J'aime le soleil.
Vos parents sont d'origine russe?
Oui.
J'ai un peu de mal à travailler.
Mais pourquoi ?
Parce que... je n'aime pas la routine. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la même chose chaque jour, en toutes circonstances. Ni travailler le violon, ni faire de l'exercice. Je ne peux pas faire ça.
C'est quand même drôle pour un violoniste professionnel.
Quoi ?
De ne pas travailler tous les jours.
Mais je ne suis pas un violoniste.
Ivry Gitlis est l'un des meilleurs et des plus célèbres violonistes d'aujourd'hui.
Il arrive en France à l'âge de 11 ans et il entre au Conservatoire de Paris. La vie s'ouvre devant cet enfant si doué. La vie s'ouvre, c'est une jolie formule, mais bien mensongère lorsqu'une guerre se prépare.
Une guerre où les petits-enfants juifs sont désignés au bourreau. Ivry Gitlis n'a que le temps de passer en Angleterre.
Ce n'est plus le temps du violon. Ivry Gitlis polit des pièces métalliques dans une usine d'aviation.
Il revient en France en 1951 pour se présenter au concours Jacques Thibault.
Voici Monsieur Ivry Gitlis, que vous pourrez écouter dans le deuxième mouvement du concerto de Tchaïkovski.
Il ne remporte pas le prix, mais le fait qu'il ne le remporte pas fait tellement de bruit précisément que les contrats et les engagements affluent. Le nom d'Ivry Gitlis se répand en Europe, en Afrique, en Amérique et dans le monde entier.
Dans les trois années qui suivirent, Ivry enregistra 9 des grands concertis du répertoire, qui furent tous de grands succès. La légende qui naissait fit tant de bruit qu'elle traversa l'Atlantique et alla atterrir dans les oreilles de l'idole suprême d'Ivry, Yasha Heifetz, le dieu vivant du violon. Mais aussi dans celle de l'impresario le plus illustre du monde, Sol Yurok. Il le mit aussitôt dans un avion pour New York. Ivry venait d'être catapulté en première ligue avec les meilleurs. Il allait désormais devoir se mesurer au Isaac Stern, au Menuhin, au Milstein et à Heifetz lui-même. Yurok avait prévu qu'il jouerait le concerto de Sibelius 3 soirs de suite à Carnegie Hall, quelques jours avant Noël de 1955, sous la baguette de George Sell et accompagné du Philharmonique de New York. Le sommet de l'Everest était à portée de ses doigts.
Il y a le fameux enregistrement de ses débuts à New York, du concerto de Sibelius. Quelque chose qui était absolument saisissant. On se demande même comment on peut récupérer après avoir joué cette chose-là, de cette manière. C'est quelque chose dans lequel il y a une telle énergie et une telle élément d'électricité que j'étais ému et sidéré, littéralement. Plaqué sur ma chaise, je ne pouvais plus bouger.
Qu'avait-il fait ? Non seulement la carrière d'Ivry ne décolla pas comme on l'aurait imaginé, mais Sol Yorok, qu'il avait pourtant présenté comme s'il s'agissait de Jésus-Christ à son arrivée à New York, se débarrassa de lui peu de temps après, sans donner d'explication.
C'est quand même étonnant.
C'est sidérant, oui. Who knows?
Qui sait? Il peut y avoir de multiples raisons.
Pendant ce temps, les médias français qui ne lisaient pas le New York Times ignoraient tout de son échec américain. Et la fascination pour cette figure flamboyante et mystérieuse ne faisait que grandir. Le jeu de cet étranger, d'un charme et d'un talent presque diabolique, provoquait des réactions émotionnelles inédites chez les auditeurs et auditrices. L'Elvis du violon. Notre petit garçon d'Haïfa était en voie de devenir un sex symbole. Il n'avait jamais été un violoniste tout à fait classique. Était-il encore seulement violoniste ?
Je me souviens de la première fois qu'Ivry m'a parlé de vous. Il a dit « Zubin, c'est mon frère ». Et je me demandais si vous pouviez m'aider à comprendre qui il est et qui il est devenu.
C'est un personnage complexe. Au début, il était heureux parce qu'il faisait une très belle carrière.
Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Je ne peux pas vraiment le dire. Tout ce qui est arrivé dans sa vie, c'est lui-même qui l'a provoqué. Le succès, l'échec, jouer comme un dieu, jouer sans aucune discipline.
Quand vous êtes-vous rencontrés ?
Dans les années 50, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas de souvenirs précis.
Vous avez joué ensemble ?
Une fois. Ce n'était pas toujours ensemble, mais on a joué ensemble.
Où ça ?
À Philadelphie. Il fallait se concentrer sur chaque note qu'il jouait, parce que c'était imprévisible. Même lui ne savait pas où il allait.
Ce n'était pas facile de l'accompagner. Quand il parle, il ne termine jamais ses phrases. Ses phrases inachevées sont plus longues que les phrases complètes de bien d'autres gens. Et c'est aussi comme ça qu'il joue. Notre première rencontre, c'était à Zurich. Je l'accompagnais sur Tchaïkovski. Sur le dernier mouvement, il était plus rapide que tout ce que j'avais pu diriger. Mais il maîtrisait. L'orchestre était ravi.
Il ne jouait pas, mais parce qu'il le sentait comme ça.
On peut apprendre à diriger en accompagnant Ivry Gitlis.
Mais alors qu'Ivry n'avait pas fait un seul disque depuis presque 7 ans, Ses collègues sérieux enregistraient chaque œuvre du répertoire et donnaient des centaines de conseils.
Je pense que la carrière ne l'a pas totalement intéressé. Autrement, il aurait... Si on, cette grande carrière internationale, elle demande une concentration presque totale.
À l'été 1971, Ivry prit son destin entre ses mains dans une tentative de créer son monde idéal. En invitant tous ses amis à Vence, village des Alpes-Maritimes.
Moi, je suggère qu'on fasse un comité de toute la ville.
Ivry allait faire entrer le festival de musique de Vence dans l'histoire comme le premier à mélanger tous les genres sans distinction aucune. Imaginez 30 des plus grands musiciens de la planète, jouant ensemble jusqu'au petit matin, tous les soirs pendant 2 semaines. Moïse venait d'ouvrir la mer Rouge en 2. Ah, comme j'aurais aimé y être.
Vence, c'était le meilleur festival que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment, c'était merveilleux. Moi, j'ai rencontré Yves dans la rue, je crois.
Dans la rue ?
Mais 68, d'ailleurs. Comment je décrirais Ivry ? Oh là là, là 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 là. Beyond words. C'est un peu comme la musique. Comment vous pouvez expliquer la musique ? Hein ? C'est un mystère.
Tu te rends compte que j'avais des soirées là-bas ? Avec 8-9 000 personnes, c'est le Woodstock de la musique.
La police est venue, m'a demandé, « Alors monsieur, ce soir, qu'est-ce que vous avez, du classique ou du rock ?»
Au terme de la 5e année du festival, la municipalité, qui considérait n'avoir pas assez de contrôle sur l'événement, menaça de couper son budget en 2 dans l'espoir de reprendre la main. Mais Ivry accepte et propose un nouveau programme une semaine plus tard. Le conseil municipal trouvait maintenant que ses têtes d'affiche manquaient de prestige.
Je vous appelle de tête d'affiche, alors je voudrais bien savoir si Jesse Norman, qui chante dans le monde entier, que Barbara Hendricks, qui va pour un concert même à Tokyo avec Karajan, et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, est-ce que c'est pas assez bon ? C'est tout.
Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, la ville décida d'y mettre un terme définitif.
Vous avez connu Léo lors de l'enregistrement du morceau Les Étrangers, c'est bien ça ?
Ben, je l'ai connu à ce moment-là déjà, mais je le connaissais avant, parce que je ne serais pas allé là-bas comme ça, avec mon violon dans la main, à minuit et demi, la fin d'un... pour faire une audition.
Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Léo Ferré ?
Ah, c'était des circonstances tout à fait... spécial, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on était tous les deux des gens très spéciaux. C'est-à-dire que, en vérité, moi, je l'ai rencontré, je le connaissais de nom, je le connaissais comme ça. Je ne connaissais pas tellement beaucoup de choses à propos de lui, je ne connaissais pas tellement ni sa chanson, particulièrement. Je n'étais pas, comment dirais-je, quelqu'un qui. Enfin, très chanson dans ce sens-là. Il y a quelques chanteurs ici et là, ici et d'ailleurs, que j'aimais comme ça, mais je ne connaissais pas tellement. Puis un jour, j'ouvre la télévision, puis je vois cette tête qui occupait tout l'écran de la télévision. Cette tête incroyable qui était la sienne. Et c'est moi comme ça. Puis à ce moment-là, il y avait aussi toute cette histoire avec sa guenon et tout ça, et j'ai lu à propos de ça, et puis j'ai vu cette tête comme ça. Ça m'a fait quelque chose. Et comme par hasard, enfin bon, en même temps, peu de temps après, on était les deux invités principaux d'un grand échiquier de Jacques Chancel. Et moi, j'avais créé une sorte de, j'aime pas le mot festival, mais c'était devenu un grand festival, Avance, dans le midi. Et on se connaissait pas, on s'est rencontrés là-bas. Et puis, ça tout de suite accroché. Vous savez, c'est comme ça, où ça passe, où ça passe pas, et puis c'était là. J'étais là et comme avec Léo, bon, il n'y avait pas de vous ou de you, il y avait tu. Et puis c'était comme ça, je lui ai demandé comme ça, qu'est-ce que tu fais à la fin du mois de juillet ? C'était là où il y avait. Il me dit, pour toi, je viens jusqu'à la fin du monde. Il me dit, tu n'as pas besoin d'aller si loin, tu juste venir jusqu'à Vence. Et il est venu, c'était 4 semaines avant, enfin, je veux dire comme ça. Alors il est venu, et puis il est venu avec son sonorisateur, puis ses assistants, enfin de tout un groupe. Et j'ai dû ajouter une soirée pour lui, parce que c'était déjà tout était fixé. Et pendant toute la période les 10 jours que ça durait, il a fait un temps absolument extraordinaire, merveilleux, comme il fait dans le midi. Et juste ce jour-là, le jour ajouté pour lui, ben, il y avait le déluge. C'est normal aussi, pour des gens comme nous. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou de moins bien, enfin, je veux dire. Il y avait le déluge. Moi, je montais sur le col de Vence pour aller là-bas et je ne pouvais même pas voir le bout de ma voiture. Enfin, il y avait une telle pluie. Et j'arrive là-haut et il y avait déjà 200 ou 300 voitures comme ça qui étaient là, entassées l'une à côté de l'autre. Et puis les machinistes, les électriciens, tout ça, sous la tente, comme ça, etc. Mais on n'a pas pu faire ce concert là-bas parce qu'ils ont dit que si on fait que la pluie tombe sur les machines, tout ça va éclater, on ne peut pas. Alors finalement, avec quelques centaines de personnes qui étaient là, comme ça, on est descendu en ville, on a essayé de trouver une solution. Son sonorisateur devait aller à, je sais pas, Châteauroux ou quelque chose pour le lendemain concert. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, ses assistants, ses machinistes, tout ça, ils ont tous décidé, on reste là-bas. Et le lendemain, il a fait beau et on a fait un concert là-haut, sur le col de Vence. Il y avait 4500 personnes et avec Léo. Et ben c'était une histoire d'amour, je veux dire, vraiment dans un sens très curieux comme ça, parce que je crois que personne ne peut nous accuser d'avoir de on était deux hommes, plus ou moins animalesques. Et on est devenus des amis, comme ça, je sais pas, c'est quelque chose, ça arrive quelquefois dans la vie. Et puis le lendemain, on a fait ce concert, comme ça, et puis bon, disons que 80%, disons, des gens sont sûrement venus ce soir-là pour Léo, parce que c'était vraiment sa soirée. Et puis à un moment, Léo m'a demandé à la fin du concert, il m'a dit, est-ce que tu joues la sonate de César Franck? J'ai dit, ben oui, écoute, n'importe quel violoniste, plus ou moins en état de jouer, est-ce que tu me la jouerais? Alors je l'ai joué pour lui, d'ailleurs, autant que je me rappelle ce soir-là, j'ai joué ça avec deux pianistes différents. Il y avait une partie, les deux premières parties, et deux des mouvements étaient avec Georges Pludermacher, qui est un magnifique pianiste. Et puis les deux autres parties, je les jouais avec Martha Argerich, qui est peut-être la plus fabuleuse pianiste, c'est l'impérateur, l'impérator, l'impératrice du piano d'aujourd'hui. Et on a joué ça pour lui, et voilà, on a joué. Et la chose la plus intéressante, que ce public-là, qui est venu évidemment pour la plupart pour Léo ce soir-là, eh bien, il y avait des gens dedans qui ont été convertis aux deux, c'est-à-dire dans le sens que ces enfants, c'est ce qu'on appelle la musique classique, entre parenthèses, et généralement les chansons, etc., c'est entre parenthèses qu'on appelle plutôt variété, ce que vous voulez. Enfin bon, Léo, ce n'est pas ni la variété ni le classique, c'est Léo, c'est une chose à part, comme toutes les belles choses, comme Michelangelo, comme la nature, comme les arbres, comme le chêne millénaire sur lequel on chantait, justement, on jouait. Et il y avait une grande partie de ce public, pour la première fois, on a entendu ce qu'on appelle justement musique classique. Ils ont dit, mais c'est pas si mal que ça. Oui, et ça, c'était le Festival de Vence. Mais alors, écoutez, c'était comme ça. Léo est venu, et puis on est resté des amis. Et il a même commencé à un moment à écrire un concerto pour moi, vous savez. Et puis, là, avec les étrangers, ben, les étrangers, c'était une autre chose, parce que j'ai fait 2 soirées au Théâtre des Champs-Élysées, où j'avais invité quelques autres musiciens, etc. Et j'ai invité évidemment aussi Léo qui allait venir. Et puis je suis passé ce soir-là comme ça tard, il était tard, après une répétition, j'avais mon violon avec moi, parce qu'il avait besoin de musique qu'il allait faire pour la première fois. D'ailleurs, je crois que c'était la première fois qu'il allait diriger un orchestre. Et c'était le soliste Ivanetti, qui était un très célèbre ensemble de musique de chambre, enfin, d'orchestre de chambre. Et voilà, et puis j'étais en train de finir l'enregistrement, etc. Puis tout d'un coup, il me dit, est-ce que tu ne pourrais pas juste jouer quelque chose? Il dit, oh, mais il était 1h du matin, qui veut jouer? Alors finalement, j'ai pris le violon, puis je n'ai jamais entendu cette chanson. On m'a mis le casque dans l'oreille, puis j'ai improvisé là-dessus. Ben oui. Et alors, c'était pas trop mal, apparemment. J'ai dit, peut-être que je peux faire encore mieux. Je sais pas, je vais réimproviser. Et puis, ils ont après mélangé les deux improvisations sur les choses. Et puis, voilà, c'est devenu. Dans 10 000 ans. Vous savez, ça finit comme ça.
Les étrangers. Regarde-la ta voile, elle a les seins gonflés, la marée de tantôt te l'a déshabillée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chichi, mais ce genre de bateau, ça drague pas. Les yeux de la mer et la gueule d'un bateau, les marins c'est marrant, même à terre c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme un avril 68, au chute tu t'en souviens, la mer, on s'en foutait, on était trois copains au bout de mille nuits, et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, en Bretagne y a toujours la crêperie d'à côté, et un marin qui te file une bonne crêpe en ciment, tellement il y a fou. Regarde la taquille, à la mer, un aller, la marée de tantôt te l'a tout enjupé. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet, mais quand on se fout à l'eau, faut savoir naviguer. T'as les yeux comme ces rocs vêtus de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman t'accrochait deux ancres aux doigts de chair, et les lignes de ta main s'assient au fond de la mer. C'est pas comme un avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était trois copains au bout de mille nuits, et puis ce chien perdu tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, oh mon chien c'est pareil, on les regarde naviguer dans les rues de l'Orient, presque pour les sauver, il y a toujours un marin qui rallume. Regarde-la ta barre, comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros, très chic.
La mer à ses anglais avec le drapeau noir. On dirait 68 qui s'en vient. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé. Si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferry. C'est pas comme un avril 68, dans ce bar adossé au destin de la rue. Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an 10 000, l'eau chute, tu t'en souviens. C'était beau dans ce temps-là, la mer dans les soleils, avec ou bien sans quille, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie. Et quand on se ramenait avec nos galaxies, ça faisait un silence à vous mourir d'envie. Et les soirs d'illusion avec la nuit qui va dans Brest et dans l'Orient, on pleure et on s'en. L'Ochu, l'an 10 000, tu te rappelles? L'Ochu, l'Ochu, l'an 10 000, 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 l'an 10 000. C'est le plus grand violoniste actuel depuis la mort de Heifetz. Il s'appelle Ivry Gitlis.
Oui, parle-moi de ce concert, de ce récital au théâtre Déjazé, place de la République, la surprise que vous lui avez faite. Il semblait parfaitement et totalement bouleversé.
Oui, oui, mais c'était assez bouleversant, hein, pour moi aussi d'ailleurs. Mais je ne me rappelle pas si c'était pas un anniversaire ou son anniversaire ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Bon, enfin, de toute façon, oui. Ben, écoutez, ben, qu'est-ce que ben, j'ai. Bon, je. Ben, je suis arrivé par le coulisse, enfin, derrière lui. Il a chanté seul, il n'y avait pas un orchestre avec lui, mais il chantait avec la bande, comme accompagnement, la bande magnétique, enfin la bande de cette chanson, Les étrangers. Et moi, je me suis faufilé derrière comme ça, avec mon violon. Et dans le disque, évidemment, il y avait mon violon déjà, bon. Et pendant qu'il chantait, ça, j'ai joué derrière lui. Et il ne s'est pas tout à fait rendu compte au début, parce qu'il croyait que c'était... Il entendait l'enregistrement dans le disque où je jouais avec lui. Et d'ailleurs, je me demande si ça n'a même pas été filmé aussi, quelqu'un a dû le filmer. Ce serait intéressant, j'aimerais bien voir cette copie-là. Mais ils l'ont enregistré aussi. Et on fait un disque de cette re-disque. Alors il y avait donc 3 violons, puisqu'il y avait déjà 2 versions de mon jeu. Et puis comme ça, j'ai continué à jouer, puis peu à peu, il a dû se rendre compte que quelque chose d'étrange se passait, parce que je crois que si je me rappelle bien, je l'ai quasiment entouré avec mon violon et mon arc. Je ne sais pas comment j'ai fait. Enfin. Puis oui, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Je crois qu'il y avait quelques petites larmes ici et là, oui. On peut dire je t'aime, je te hais, je vis, je meurs. Il les a très bien mis ensemble. Merci Léo, non, il était formidable.
Au début des années 80, il passait à la télé française un soir sur deux. Téléfilms, émissions de variété et bien d'autres choses encore. À tel point qu'il était devenu une véritable célébrité du divertissement populaire. Puis un jour, vint une invitation inattendue. En décembre 1982, Zubin Mehta réussit un coup inédit dans l'histoire de la musique. 7 des plus grands violonistes du monde allaient partager la scène de Philharmonique d'Israël pendant toute une semaine pour célébrer le centenaire de son fondateur, Bronislav Huberman. Dans un article du New York Times, Zubin alla même jusqu'à rebaptiser l'événement Star Wars. Mais le clou du spectacle fut la performance historique du concerto pour 4 violons de Vivaldi, par une brochette de titan comme on n'en avait encore jamais vu.
Il y a une expérience que je n'oublierai jamais.
Son interprétation du concerto de Bartok a été extraordinaire. C'est une œuvre que j'ai souvent jouée avec Yehudi Menuhin, qui lui-même était un disciple de Bartok. Et je dois dire que
si Bartok avait pu ressusciter, il aurait dit « c'est comme ça qu'il faut le jouer ». C'était incroyable, le plus extraordinaire que j'ai jamais entendu. De toutes les interprétations de grands violonistes, de toutes les versions enregistrées, c'était la meilleure.
Je suppose que quelqu'un a dû l'enregistrer pour les archives de l'orchestre.
Sûrement. Il y a même un disque, non?
De ce concert? Avec le Israël Philharmonique et Zubin?
Le disque du festival Huberman, qui était l'une des meilleures ventes de l'histoire de la Deutsche Grammophon, n'allait pas être trop difficile à trouver. Mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque performance d'Ivry en solo. D'ailleurs, il n'était même pas sur la photo avec ses copains.
L'événement a été intégralement filmé. Chaque instant, chaque seconde.
Même le concert d'Ivry?
Absolument.
Après avoir scruté tous ces documents en long, en large et en travers, cette photo, qui m'a été envoyée par les archives du Philharmonique, semble être la seule preuve qu'Ivry aussi aurait joué un concerto solo durant l'événement. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Est-ce qu'on l'aurait volontairement effacé? Combien d'autres trésors comme celui-ci, que personne n'entendra jamais, s'étaient perdus dans la nature? À l'été 1989, un collectionneur allemand se présente avec une bande enregistrée clandestinement depuis la radio américaine 40 ans plus tôt. Vous vous souvenez du mystérieux échec de son Sibelius à New York? Je me rendis soudain compte que jusqu'ici, personne, pas même Ivry, n'avait entendu ce qu'il considérait comme étant sa plus grande occasion manquée. Mais l'occasion avait-elle vraiment été manquée? Écoutez bien et dites-le-moi.
Je n'ai jamais réalisé qui j'étais. Enfin, je sais bien que je suis quelqu'un.
Jusqu'à quel moment? Depuis quand?
Jamais. Pas même aujourd'hui. Mais je m'en rends compte lorsque je m'entends. J'entends ce jeu et je me dis qu'il est incroyable.
Pour la première fois depuis qu'on s'était rencontrés 4 ans plus tôt, Je m'étais absenté plusieurs semaines et il m'est soudain venu à l'esprit qu'Ivry allait bientôt fêter ses 97 ans.
La dernière fois que vous avez joué ensemble avec Zubin, Ivry et les autres, c'était au Festival Ubermann en 1987, je crois. Mais quand j'ai cherché d'autres collaborations d'Ivry avec le Israel Philharmonic, je n'ai presque rien trouvé. Et ça m'étonne.
Parfois, il vaut mieux ne rien dire. J'espère que tu me comprends.
Comment ça se fait que vous n'ayez pas plus joué ensemble depuis des décennies?
Je ne veux pas parler de ça. C'est trop douloureux. Et ça lui ferait mal à lui aussi. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je l'aime.
Et il s'est mis à pleurer.
Il a pleuré?
Oui.
Vraiment?
Il s'est mis à pleurer, il a baissé les yeux et il a dit « Je ne veux pas parler de ça parce que ça me fait trop mal. »
Vraiment? Ça me touche très profondément. Tu lui as demandé pourquoi on n'avait pas joué plus souvent ensemble? Je ne sais pas. Moi aussi, je me suis posé la question. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qu'on ne pouvait pas vraiment contrôler ni diriger. Ce n'est pas que je me rebellais tout le temps, mais j'étais simplement...
inattendu, quelque part.
8 ans étaient passés depuis l'avion en papier.
Qu'est-ce que c'est, celle-là?
C'est Bartok.
My God.
Avec son écriture. Regarde ça.
J'en revenais pas. 5 ans que je retournais la terre entière à la recherche de ces bandes disparues du Festival Ubermann, traquant quiconque avait eu un lien avec la production du festival. Peter Ziegler avait débarqué chez Ivry un jour de 1989 pour récupérer une cassette d'Eifetz qu'il lui avait prêtée.
Il m'a dit, « Peter, il faut que tu fouilles dans mes cassettes, je ne sais pas où elle est. » J'ai regardé et je l'ai tout de suite trouvé, Yasha Eifetz. Et puis j'ai dit,
«
Ivry, qu'est-ce que c'est ?» Et il m'a répondu, « Oh, c'est le festival Huberman. J'y ai joué, ils m'ont envoyé cette cassette. » Je lui ai demandé si je pouvais la prendre. Il a dit, « Oui, vas-y. »
Il te l'a donné?
Oui, tout de suite.
Est-ce qu'il savait qu'il n'existait pas d'autres copies?
Non, pas du tout.
La dernière fois qu'on s'est vu, vous avez été le premier à me parler du concerto de Bartok qu'a joué Ivry au Festival Huberman. Je me suis demandé, et il se le demandait aussi, pourquoi son Bartok était totalement absent de la captation qui a été publiée.
Je n'ai rien à voir avec cette décision.
Il y a un mois, après 6 ans de recherche, j'ai trouvé la seule copie qui a été conservée.
Bravo.
C'est fantastique.
Ivry n'a jamais joué une seule fausse note. Il jouait les bonnes notes, mais à sa manière, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Il était comme ça. La musique sortait de lui, comme ça. Il avait le jeu le plus sexy qui soit. Mon Dieu, les gens devenaient fous, rien qu'en entendant son vibrato et son phrasé.
The way the phrases came out. The Bartok was...
Sam Bartok était extraordinaire pour nous tous. Parce qu'à sa manière, il en a fait l'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps. Si des enregistrements comme le Bartok étaient publiés, il serait enfin reconnu. Ah.
On a enfin réussi à traverser ce foutu désert du Sinaï. Ce que tu laisses derrière toi est infiniment plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Ivry Gitlis est mort en décembre 2020. Et à la radio, Nina Simone chantait « I shall be released ». J'ai probablement pas encore le recul nécessaire pour mesurer l'impact que ces années passées avec Ivry ont eu sur ma vie. Alors, faute de meilleures conclusions, merci mon vieux.
C'est ce qui manque dans ce monde. C'est ce qui manque. L'intelligence. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.